Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de l'islam ouest-africain, l'islam en Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, et avec une focale ou une focalisation sur tout particulièrement la Côte d'Ivoire, parce que c'est le terrain et le champ de recherche de Marie Mirand-Guyon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence. Vous m'avez obligé en quelque sorte à féminiser le titre, chose que je faisais rarement. Vous êtes historienne, anthropologue, et vous êtes membre de l'IMAF, qui est l'Institut des mondes africains. Et vous connaissez, parce que c'est votre champ d'étude, les spécificités de l'islam ouest-africain. Et vous avez vécu un certain temps en Côte d'Ivoire. Pour cette première partie, Marie Mirand-Guyon, quel est le panorama général de l'islam subsaharien?
Alors, pour commencer, je vais peut-être me permettre deux remarques générales.
Ah, mais je vous en prie.
Alors, la première, c'est que parler d'islam en Afrique de l'Ouest ne se réduit pas à parler des mouvements djihadistes qui se déploient dans la zone soudano-sahélienne. Ces mouvements djihadistes ont malheureusement un impact délétère sur les communautés et les États dans lesquels ils évoluent. Et il serait absurde, bien évidemment, de les ignorer. Et de fait, les médias en parlent pas mal. Mais il faut aussi tenir compte du fait que la très vaste majorité musulmane pratique un islam à l'opposé de cet islam djihadiste, ou en tout cas très différent de cette vision violente de l'islam. Je vais vous donner un exemple. Au nord du Nigeria, dans les états du nord du Nigeria, un recensement a évalué qu'il y avait à peu près 8 millions d'Almadjiraï. Alors les Almadjiraï, en langue haoussa, ce sont les talibés, les élèves des écoles coraniques traditionnelles. Dans le même temps, dans le nord-est du Nigeria, en zone Kanouri, un recensement qui était retenu par mon collègue Marc-Antoine Pérouse de Monclos,
parle de 6 000...
voilà, 6 000 à 8 000 militants de Boko Haram. Même si c'est le double, vous voyez qu'en termes démographiques, la différence est énorme. Donc pour filer la métaphore, c'est un peu comme l'arbre qui tombe, qui fait beaucoup de bruit, et la forêt qui pousse en étant plus silencieuse. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces évolutions moins bruyantes, plus silencieuses de l'arène islamique. Alors deuxième remarque aussi, c'est que l'islam subsaharien, mais c'est vrai aussi dans d'autres parties du continent, est un islam fondamentalement pluriel et foisonnant. Il y a une pluralité de discours, d'acteurs, de mouvements. On ne saurait parler d'un seul islam ouest-africain, ni même de deux, l'un qui serait bon et modéré, l'autre qui serait mauvais et radical, mais d'une très grande pluralité de la manière dont le dogme qui est un et unitaire s'est inscrit dans des contextes spatiaux et temporels très variés. Voilà, c'est de cette pluralisation dont j'aimerais vous parler.
Quelle est cette pluralité d'ailleurs?
Alors, comment en parler? Peut-être qu'un retour par l'histoire serait un bon fil d'Ariane. Au début du XXe siècle, dans les sociétés musulmanes d'Afrique de l'Ouest, la gestion du sacré était aux mains de spécialistes du fait religieux qui étaient détenteurs d'une sorte de monopole sur l'autorité islamique légitime. Ces spécialistes étaient typiquement choisis dans des clans, comme par exemple le clan des Torodbe chez les Peuls ou tout couleur au Sénégal, de familles maraboutiques comme les Timité qui sont imams à Bondoukou en Côte d'Ivoire, ou de familles royales comme les Marou Saraouta au sultanat de Sokoto au nord nigérien. Ces autorités étaient traditionnellement des hommes d'âge mûr, soit des aînés ou des vieux.
J'ai lu que vous avez dit que vieux n'a aucune approche dépréciative,
bien au contraire,
bien au contraire pour ces gestionnaires du sacré.
En tout cas, ce système traditionnel était imprégné donc d'idéaux islamiques mais aussi de coutumes locales, et ça combinait gérontocratie et patriarcie pour reléguer les jeunes, et donc surtout les jeunes femmes, à des positions subalternes, voire même en marge du domaine islamique. C'est la colonisation, avec ses transformations sociopolitiques et économiques qui se sont prolongées après les indépendances et qui se poursuivent avec la mondialisation actuelle, qui ont sapé les bases de ce système de l'autorité traditionnelle, puisque le développement, malgré ses défaillances et ses inégalités, a permis à la jeunesse des deux sexes de profiter de l'accès à une éducation de type occidental, à la multiplication des moyens de transport, l'ouverture sur le monde, pour contester donc la tutelle des aînés et s'en affranchir.
Et c'est là où on passe aux associations, on en est encore trop tôt.
C'est encore un tout petit peu tôt, voilà. On peut peut-être dire juste que donc à la faveur donc de vagues d'intenses éveils ou réveils à la fois, un nombre grandissant donc de jeunes musulmans ont élaboré de nouvelles interprétations de l'islam qui favorisent leur émancipation, leur réinvention de soi en tant que musulman, même une nouvelle sociabilité et hiérarchie religieuse. Parler d'islam et de la modernité fait à la fois sens et pas sens, puisque dans toute modernité, il y a une part de reconduction de la tradition dont est censée être l'antithèse. Néanmoins, plus que jamais auparavant, cette jeunesse musulmane investit l'espace public et concourt à la nouvelle visibilité donc de l'islam dans les États et les sociétés ouest-africaines.
Donc une jeunesse plutôt instruite qui finalement prend sa destinée en main. Mais comment a-t-elle pu se rendre compte de quelques pesanteurs avec ses aînés? Y a-t-il parmi ces jeunes musulmans, garçons et filles d'ailleurs, ceux qui ont appris la langue arabe, qui ont étudié dans des universités dites islamiques, et puis d'autres qui finalement ont une instruction dans le monde pas nécessairement religieux?
On retrouve tous ces différents profils en fait dans cette jeunesse musulmane qui est militante. Jeunes musulmans ici, j'entends pas l'ensemble des jeunes, mais ceux qui ont une démarche motivée et volontaire d'engagement vis-à-vis de leur religion et qui typiquement militent dans un nouveau type d'organisation qui est l'association volontaire. C'est un mode d'organisation qui bien évidemment n'existait pas à l'époque précoloniale et qui s'inspire du modèle des missions chrétiennes, mais aussi des partis politiques et des syndicats.
Il parle de GEM comme on parlait de GEC, la jeunesse chrétienne ou catholique, et là on parle plutôt de jeunesse musulmane.
En effet, c'est la jeunesse musulmane. Donc ces associations sont un mode bureaucratique de type démocratique de la gestion des affaires islamiques qui est bien différente du modèle charismatique de type élitiste de l'autorité traditionnelle, des écoles islamiques traditionnelles ou même de l'initiation confrérique. Même si dans la réalité les choses sont plus complexes, dans le principe, le recrutement associatif, lui, il fait fi des contraintes qui sont liées au milieu ethno-culturel familial, et cela a permis en Mauritanie par exemple d'intégrer dans les associations des militants qui pouvaient porter une catégorie là pour le coup péjorative de tributaires, griots, esclaves ou anciens esclaves.
Et qu'en est-il alors de la nouvelle figure du prédicateur, si ce n'est plus l'ancien, le maître reconnu? J'ai noté la formule, ces gestionnaires du sacré ou ces entrepreneurs religieux. Et là, va émerger une nouvelle figure du prédicateur.
Tout à fait, puisque dans ces associations, il y a de nouvelles figures de guides religieux qui émergent. Et la première est celle du prédicateur, qui est donc bien distincte de celle du cheikh, du maître confrérique ou de l'imam. Ça vient en arabe, c'est le da'i, qui vient donc de l'arabe dawa, qui signifie littéralement un appel ou plus largement une invitation à l'islam, et qui a pu être développé comme une idéologie de propagande ou de prosélytisme islamique. La dawa est mentionnée dans le Coran, c'est pour les musulmans, elle représente un devoir sacré à titre à la fois individuel et collectif. Il y a là une différence avec le christianisme qui lui a de son côté institutionnalisé et différencié un organe en charge des missions. Par contre en islam, chaque musulman est un missionnaire potentiel. cette dawa, elle a existé hein, par le passé, ça n'est rien de nouveau. Et dans le passé, elle mettait beaucoup l'accent sur l'éducation religieuse, et là où le pouvoir était musulman, également sur la propagande politique, avec ou sans djihad. Alors, cette focale sur l'éducation, elle est toujours très importante pour le mouvement associatif musulman en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, et elle a d'ailleurs développé de nouveaux supports d'instruction, notamment par des débats, des conférences débats, des causeries et autres, qui permettent d'atteindre un public de plus en plus large, de jeunes, mais aussi de femmes, qui, en retour, eux, peuvent s'autonomiser dans le choix du type de prédication qu'ils ou elles vont pouvoir décider de suivre pour soit leur vie quotidienne ou pour leur instruction à titre autodidacte. Donc cette dawa par l'école a démocratisé l'accès direct aux textes sacrés et élargi donc
la diffusion.
Il faut rappeler que l'Afrique de l'Ouest s'est massivement convertie à l'islam au XXe siècle. C'est un phénomène relativement récent, et cette démocratisation de l'accès au savoir religieux et donc qui donne les instruments, si l'on peut dire, de la bonne pratique, tout ça, ce sont des phénomènes finalement relativement récents.
Et tous ces supports, je parle technique, ça va de la cassette et de ces VHS, ou de ces cassettes vidéo aussi. Par la suite, ça sera le DVD. Et maintenant, je pense que les réseaux sociaux dernière génération y contribuent.
Tout à fait. Ces jeunes musulmans, ils ont vraiment fait feu de tout bois, de toutes les dernières inventions technologiques. À l'époque coloniale, c'était des journaux qui étaient plutôt publiés en langue française et diffusés dans les villes. Donc l'audience était assez restreinte, mais après c'est passé, comme vous le dites, à la radio, les VHS, les cassettes audio. Aujourd'hui, c'est les enregistrements MP3, les sites sur Internet. Et il est pas important de mentionner que un certain nombre de sermons qui sont donc déposés sur supports divers et variés, en particulier MP3 ou CD autrefois, et même des livres et autres, deviennent des biens, en quelque sorte, du salut, qui sont commercialisés, et certains de ces nouveaux prédicateurs sont aussi des businessmen accomplis, pas tous, mais certains.
Il y a dans la prédication religieuse un moyen aussi de notabilité. Donc, ils deviennent des notables et dans certains cas, même une sorte de richesse matérielle.
Tout à fait, mais sous un nouveau costume. Voilà, ce sont des marabouts en cravate, de type, par exemple, le nouvel intellectuel musulman, qui a typiquement une formation universitaire, mais pas en sciences islamiques, donc qui confère traditionnellement le rang d'oulama. Ils sont europhones, donc francophones ou anglophones. Ils peuvent parler l'arabe, mais ils ont eu un apprentissage de l'islam plutôt en autodidacte, soit par les associations, soit par tous ces nouveaux supports qui ont été mis en circulation précisément par les associations ou les prédicateurs. Et avec le temps, pour les plus talentueux d'entre eux, ils ont pu devenir les imams des nouvelles mosquées qui ont été construites en lien avec ces associations.
Et quelques conversions rares, notées, réelles, nombreuses, je ne sais pas.
Il y a probablement autant de conversions de l'islam vers les christianismes que des christianismes vers l'islam, et ils ne sont pas forcément très nombreux. Autant dire qu'aujourd'hui, ces communautés sont démographiquement à peu près stables. La grande phase de croissance numérique de l'islam, c'est vraiment la période coloniale et jusqu'aux années 70-80.
Et cela commençait notamment après la Seconde Guerre mondiale ou avec le recouvrement des indépendances.
Alors, c'est pas inutile ici de revenir sur l'historique des associations musulmanes, parce qu'elles ont vraiment joué un fer de lance dans ce mouvement-là. Les plus anciennes associations musulmanes en Afrique de l'Ouest sont dans les colonies britanniques, avec la première grande association, c'est la Ansaruddin Society of Nigeria, qui a été fondée en Lagos en 1923. Elle est très importante et de fait, elle existe toujours aujourd'hui dans une forme renouvelée. En Afrique occidentale francophone, c'était en 1934 la brigade de la fraternité musulmane.
C'est curieux d'avoir à la fois brigade et fraternité. Les autres qui parlaient d'Ansaruddin, ce sont les supporters, les partisans, les auxiliaires de la religion. Donc ce sont des appellations ou des dénominations un peu particulières.
En effet, en effet. Donc dans un premier temps, donc ce mouvement associatif était restreint à une petite élite francophone, anglophone et urbaine. Mais après la Seconde Guerre mondiale, le mouvement s'est élargi et il s'occupait principalement donc de questions d'éducation, des écoles, des étudiants, de la construction de mosquées, du pèlerinage à la Mecque.
Oui, la MEAN, c'est l'association musulmane des étudiants d'Afrique noire.
Tout à fait, qui a été fondée dans l'enceinte de l'université de Dakar en 1952. Et ce mouvement donc de création d'associations musulmanes s'est poursuivi après les indépendances, alors avec des chronologies différentes selon les pays. Et dans un premier temps, les gouvernements donc indépendants ont cherché à s'accommoder ou à tirer parti de la création d'une association principale ou d'une fêtière d'associations musulmanes pour leur servir de courroie de transmission entre donc eux-mêmes, l'État, donc cette population musulmane, et à partir des années 70-80, les pays producteurs de pétrole et qui donnaient donc pas mal de dons à partir de ce moment-là.
Et on passe d'association à organisation non gouvernementale.
Alors, pas tout de suite, et ça s'est fait en parallèle. C'est vraiment à partir des années 1990 que les choses ont changé d'échelle. Pourquoi les années 90? Un, parce que dans la plupart des États d'Afrique de l'Ouest, c'est le mouvement de retour à la démocratie et donc la réinstallation des libertés de d'expression et d'association. Et par ailleurs aussi, c'est la période où avec la crise conjoncturale au plan économique, l'État s'est graduellement désengagé de secteurs essentiels hein, pourtant de la vie de leur pays, qui sont notamment l'éducation et la santé. Et donc cela a permis à une multitude d'initiatives et la création d'une foultitude d'associations, de cercles, de quartiers ou à l'échelle de pays tout entier qui ont pris en charge, donc si on peut dire, le marketing islamique pour le prosélytisme, mais aussi le souci d'apporter à ces populations musulmanes une éducation et aussi parfois des soins qui désormais faisaient de plus en plus défaut. Et donc les ONG sont venues en appoint de ces associations à partir surtout là aussi des années 90. Typiquement, par exemple, c'est l'AMA, l'association des musulmans africains, c'est une ONG koweïtienne qui construit des puits et des mosquées et donc qui mêle l'action prosélyte et l'action caritative, comme le font d'ailleurs les missions chrétiennes depuis au moins les débuts de la pénétration coloniale.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de l'islam en Afrique de l'Ouest avec Marie Mirand-Guillon, maîtresse de conférences, historienne et anthropologue, membre de l'Institut des mondes africains, l'IMAF. Et pour cette deuxième partie, tout en vous remerciant, Marie Mirand-Guillon, si vous me permettez l'expression, nous aurons un zoom sur un pays particulier que vous connaissez très bien, et celui de la Côte d'Ivoire. Donc, d'abord, comment étiez-vous amené à faire du terrain en Côte d'Ivoire?
Eh bien, en 1996, je voulais faire une thèse sur les questions d'islam en Côte d'Ivoire et je voulais défricher des terrains sur lesquels il n'y avait pas déjà pléthore de livres en bibliothèque. Et c'est la rencontre simultanée avec Jean-Louis Triot, qui est un peu l'un de nos aînés hein, dans le domaine. Il est le fondateur de la revue Islam et Société au sud du Sahara, qui m'a encouragée à regarder du côté de la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai fait mon premier séjour à Abidjan, j'ai été accueillie de façon assez exceptionnelle par un vieux sage, qui était un parent éloigné de Damadou Ampateba, un vieux sage du nom d'Eladj Boubacar Sako, et avec qui toute la suite s'est découlée de manière très facile et naturelle.
Et donc vous avez commencé d'abord faire de la recherche et des études de terrain. Et puis, vous avez vu vous-même un peu l'évolution de la présence islamique en Côte d'Ivoire.
Comme je le disais en première section, le foisonnement islamique en Afrique de l'Ouest, il est débordant. Donc, pour documenter les choses un petit peu plus en détail, il est utile de faire un zoom un petit peu sur une région un peu plus particulière. Donc, pourquoi la Côte d'Ivoire ? Ces évolutions sont assez stupéfiantes, puisque à l'indépendance, la Côte d'Ivoire faisait plutôt figure de pays assez marginal sur l'échiquier islamique ouest-africain, et c'était dû principalement au fait que l'islam a longtemps été subordonné au plan politique. Hein, si on pense à Félix Houphouët-Boigny, c'est le bâtisseur de la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro. Mais il a aussi longtemps été assez minoritaire au plan démographique, et ces choses-là ont évolué. Dans les années 50, 60, à la charnière avec l'indépendance, la vie musulmane dans la zone sud du pays
dans la partie méridionale,
là où se concentre la Côte d'Ivoire dite utile, hein, de par son dynamisme économique, donc dans les quartiers populaires de la capitale politique à l'époque, économique aujourd'hui, qui est Abidjan, ou dans ce qu'on appelle les Dioulabougou. Alors, le Dioula, c'est un peu un mot valise qui signifie à l'origine commerçant ambulant et qui aujourd'hui désigne tous les musulmans qui soient originaires du nord ivoirien ou des pays septentrionaux comme le Mali, le Burkina, la Guinée, le Sénégal. Donc la vie dans ces communautés de quartier, à l'époque de l'indépendance, elle était très liée à la mosquée de proximité qui était tenue par un imam traditionnaliste dans une acception très ethno-culturelle de la vie religieuse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu un boom économique dans les années 60-70 assez faramineux grâce au binôme café-cacao. Et ça a accéléré l'émigration et l'urbanisation. Le pays s'est grandement enrichi. Et les jeunes des deux sexes, des familles musulmanes, ont pu profiter eux aussi de l'élargissement de l'accès à l'éducation. À l'école publique laïque, qui est l'héritière de l'école coloniale, mais qui s'est transformée après les indépendances en école publique, officielle et laïque. À Abidjan, il y avait les lycées d'excellence, et jusqu'aux années 90, il y avait aussi la seule université. Ces jeunes musulmans et les cadres qu'ils sont devenus par la suite avaient néanmoins une sorte de gêne vis-à-vis de cet islam traditionnel qui était véhiculé de façon un peu passive par ces marabouts et leurs parents. Ils le trouvaient arriéré, pas en phase avec la modernité, et ils en tiraient un certain sentiment de gêne, voire même un complexe d'infériorité. Et le cinéaste et anthropologue Jean Rouche a documenté dans plusieurs films, notamment « Moi, un noir » qui a été filmé à Abidjan en 58, ce phénomène un peu étonnant qui est que des jeunes musulmans adoptaient en fait des prénoms chrétiens pour mieux se fondre dans la vie européenne de l'élite abidjanaise de l'époque. Hein. À l'époque, on parlait d'Abidjan comme un petit Paris, c'était la vitrine du développement économique du pays.
Grâce donc à ce boom économique, et à partir des années 70-80, les choses s'inverseront.
Tout à fait. Alors, le vent du changement, hein, pour ce qui est de la scène islamique et donc de l'émergence des associations musulmanes en Côte d'Ivoire, c'est vraiment les années 70 et 80, grâce en fait aux jeunes musulmanes et musulmans qui avaient été formés dans les écoles laïques et même dans une seconde mesure dans les écoles catholiques. Donc ils étaient insatisfaits de l'héritage traditionnel de l'islam de leurs parents, et ils n'adoptaient pas non plus les idéologies du capitalisme ambiant ou du marxisme. Et ils étaient donc en quête de sens, d'un islam qui pourrait allier la spiritualité et la modernité. Et ce qui a été décisif à ce moment-là, c'est la rencontre de cette jeunesse-là, donc francophone, et qui avait même un certain esprit critique et scientifique, hein, qu'ils avaient acquis dans ces écoles officielles, avec trois figures qui ont été des prédicateurs importants dans l'histoire islamique de la Côte d'Ivoire et que les jeunes appelaient de façon humoristique les trois mousquetaires.
Il y a Tidjane Ba, le premier, en tout cas celui qui a fait ses études en Algérie.
Il était l'aîné des trois de par son âge. Il a fait ses études à l'Institut Ben Badis en Algérie. Il était issu d'une lignée très prestigieuse, hein, puisqu'il était issu de la lignée de El Hadj Oumar Tall, et donc il a même été en son temps calife de la Tidjania. Il est devenu l'imam de la grande mosquée de la rivière à Golfe à Abidjan et il a été à ce jour le seul et unique moufti du pays. Un autre personnage a été Aboubakar Fofana, un profil très différent. Aboubakar Fofana, lui, il a fait des études d'économie à l'université du Caire en Égypte. Il est devenu banquier de formation jusqu'à sa retraite. Il a commencé, si l'on peut dire, sa carrière de militant musulman, plutôt du côté des associations qu'on dirait aujourd'hui salafistes, mais il a un parcours spirituel qui l'a fait prendre l'initiation de la confrérie Kadiri à un certain moment. Ceci dit, lui, il était favorable à l'émergence de ce qu'on pourrait presque appeler un islam générique, ivoirien, réformiste en ce sens où il était ni d'un mort ni de l'autre, mais qu'il réunissait tous les musulmans. Il était ni traditionnel, ni salafiste, ni soufi, ni d'ailleurs anti-soufi. Et il a vraiment représenté cette aspiration à rassembler les musulmans sur leurs points communs pour faire émerger l'islam donc de Côte d'Ivoire qui était reclus en fait dans les quartiers des mosquées et des écoles coraniques pour qu'il ait une visibilité dans l'espace public et influence donc le devenir du pays et de la population musulmane à une toute autre échelle. Donc ces prédicateurs...
Et on en a un troisième.
Ah oui, c'était Mohamed Lamine Kaba qui lui était plutôt ancré dans la mouvance salafiste. Il était d'origine guinéenne. Et donc à Troyes, vous voyez des profils très différents, avec des obédiences et des formations assez disparates. Et ils ont quand même fait front commun pour mobiliser, accompagner cette jeunesse musulmane francophone qui au départ n'était pas très lettrée en fait en islam et qui était avide d'apprendre. Et par un jeu de retour de balancier intéressant, c'est trois mousquetaires qui étaient plutôt donc dioulafones mais aussi arabisants, ont appris à maîtriser la langue française, mais aussi la façon de s'exprimer en français pour un public socialisé en cette langue, et ce qui a contribué à l'émergence que ce que j'ai pu appeler un islam ivoirien d'expression française. Voilà. Il y a donc des clivages linguistiques qui recoupent aussi des clivages sociaux. L'islam traditionnaliste étant plutôt en langue vernaculaire, en l'occurrence plutôt en dioula. Et un autre clivage avec l'islam conservateur de tendance plus littéraliste qui lui est porté plutôt par des arabisants. Et donc cet islam francophone, un peu à la jonction des deux autres, embrasse les défis de l'islam dans la modernité.
Oui, il participe donc à la réorganisation ou la refonte de l'organisation communautaire, ainsi que l'élargissement des activités des musulmans, notamment en Côte d'Ivoire. Et j'ai cru comprendre qu'ils vont participer à leur niveau à un peu apaiser les tensions quand ces tensions politiques ont surgi.
Tout à fait. Tout est d'abord parti de la communauté des musulmans qui ont créé en 72 à Abidjan et dans d'autres villes du pays ce qu'ils ont appelé la JEM, donc la jeunesse étudiante musulmane dont vous parliez tout à l'heure et qui était copiée-collée sur le modèle de la JEC, la jeunesse étudiante catholique. Quelques années après, ils ont rebaptisé en fait leur association en une association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. C'était en 75. Cette association a donc contribué à la socialisation de la jeunesse donc des villes de l'intérieur du pays à cet islam-là qui avait émergé vraiment dans la capitale économique. Et puis dans un deuxième temps, il y a eu la mobilisation des cadres et des intellectuels. Il faut dire que en 1977, tous ces débats qui avait lieu soit spontanée ou débottée, de manière spontanée, dans les écoles, dans les centres islamiques, s'est porté donc sur les ondes, donc à la radio, à la télévision nationale. Donc ça a considérablement élargi le public de l'audience de ce nouvel islam. Et donc ça a séduit pas mal de monde. Voilà, c'était un islam en langue française, par des marabouts en cravate, qui parlait de manière rationnelle. Et ça a entraîné un phénomène de conversion à l'islam, mais aussi une sortie de leur complexe d'infériorité pour les cadres et les intellectuels. Et donc, ils ont fondé en 82 une première association dédiée aux cadres, la communauté musulmane de la Riviera, du nom d'un sous-quartier de Cocody à Abidjan, dans un quartier tout à fait huppé. les Trois Mousquetaires, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire et la communauté musulmane de la Riviera étaient en quelque sorte un terrain très fécond, intellectuel et organisationnel pour complètement repenser le schéma de la prise en charge de l'islam dans le pays. Et ils ont appuyé l'émergence de toutes sortes d'associations connectées, en général en fonction des divers besoins à la fois voilà socio-économiques et aussi générationnels de la population. Il y a eu la LIPSI, la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, qui rassemblait les daïs ou les prédicateurs de toute formation et obédience. Puis on a vu se créer l'Association de jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire pour s'occuper de la jeunesse qui était employée ou déscolarisés et au chômage, l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, il y a eu le CEMI, l'Association des secours médicaux islamiques, il y a eu une association des cadres, une association dédiée aux écoles islamiques, une association pour l'encadrement du pèlerinage islamique. Et le tout a été couronné à la fin des années 80, autour de 1990-93, par la création de deux fêtières qui venaient donc un peu chapeauter toutes ces associations disparates.
Le COSIM et le CNI.
Le COSIM, c'est ça, le Conseil supérieur des imams, qui existe toujours très influent, et le CNI, le Conseil national islamique. Et c'est au début des années 90, ça a correspondu en termes d'histoire politique en Côte d'Ivoire avec une période pas très favorable aux étrangers, aux musulmans, qui est celle de l'ivoirité. Ce contexte a fait que ces deux associations ont bénéficié d'un très fort engouement d'adhésion populaire. Et donc, ils ont encarté, si on peut dire, plein d'imams à travers le pays, ce qui a donné à ces leaders une certaine autorité pour s'imposer auprès donc du gouvernement et de l'administration comme des intermédiaires légitimes.
Quelle était leur contribution à pacifier, en tout cas apaiser les tensions dû aux troubles d'ordre politique cette fois-ci?
Alors, de 2006 à sa mort donc de la Covid en 2020,
Aboubacar Fofana.
Aboubacar Fofana, donc, qui a été le président du COSIM et aussi le premier cheikh des imams. Cheikh Al-Aïma, c'est une invention à l'époque. Donc lui, il a vraiment prôné, dans la prolongation un peu de tout ce qui s'était fait auparavant, ce qu'il appelle un islam du juste milieu. Et donc, quand la Côte d'Ivoire a semblé à un certain moment pouvoir basculer dans la guerre religieuse, en plus d'une trouble politico-militaire flagrant des années 2002 à 2011, il a toujours fait valoir que les conflits étaient en fait de nature politique et qu'ils n'étaient pas de nature religieuse, et qu'il ne fallait pas que les musulmans s'en prennent à leurs voisins et coreligionnaires chrétiens ou qui suivaient des à leurs compatriotes, voilà, et que en fait au plan interrelationnel dans les quartiers, parfois même dans les familles, il y avait pas de problème religieux, c'était une instrumentalisation politique pour servir des intérêts sombres de personnalités politiques. Et donc ces mises en garde ont était effectif, puisque de fait, la Côte d'Ivoire a réussi à esquiver donc ces conflits d'ordre religieux, et plus récemment, lors des dernières élections de 2020, où de nouveau, il y avait des partis politiques qui ont rebrandi le spectre de l'ivoirité et de la crainte pour certains Ivoiriens, une sorte d'envahissement d'une déferlante islamique qui serait venue au nord. Le COSIM, qui s'est d'ailleurs allié avec des leaders chrétiens, ont créé l'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire, en rappelant, là encore, que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème religieux. L'islam est une religion de cohésion sociale et il y a une bonne entente avec les chrétiens. Les problèmes politiques sont réels, mais laissons cela aux politiciens. Ne mêlons pas la religion dans ces affaires-là.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission « Questions d'islam ». Aujourd'hui, nous parlons de l'islam en Afrique de l'Ouest avec Marie Mirand-Guyon, qui est maîtresse de conférences, historienne et anthropologue. Elle est membre de l'Institut des mondes africains. Pour cette dernière partie, Marie Mirand-Guillon, vous avez évoqué juste à l'instant le dialogue interreligieux, l'émulation pour des valeurs et voire pour l'élévation spirituelle entre la composante chrétienne et la composante islamique en Afrique occidentale et Afrique subsaharienne. Comment ces choses-là ont-elles commencé et quelle est leur évolution?
Alors, c'est une question importante. Pour mieux la comprendre, je me permets un petit retour sur l'histoire et voilà aussi ce que j'évoquais en première section. Donc, je disais que l'islam en Afrique de l'Ouest, c'est un foisonnement absolument extraordinaire. Du littoral de Golfe de Guinée aux confins du Sahel et du Sahara, de la Gambie à l'ouest, au Niger à l'ouest, les reconfigurations et les expressions de renouveau musulman porté donc par la jeunesse sont absolument exubérants, partout foisonnants. Au Niger, par exemple, il y a encore seulement 3 décennies, la figure principale de l'autorité traditionnel, c'était le malam, ou le marabout traditionnel. Désormais,
stricto sensu, c'est le patron. Hein, ouais. Le malam, c'est donc le maître, le patron.
Tout à fait. Le français d'Afrique de l'Ouest qui s'émancipe de son étymologie pour donner au mot de nouveaux sens. Donc aujourd'hui, au Niger, il y a plus seulement le malam, même s'il est toujours là, mais il y a tout plein d'autres groupes, hein, notamment ce qu'on appelle les salafistes ou les wahhabites, qui ont toutes sortes de groupes hein, concurrentiels, qui ont pour nom les Yanizala, les Ali Soula, les Ali Sunna, les Kalakato. Il y a les Da'i hein, la Dawa, qui en l'occurrence sont les Tablighi. Il y a aussi les Oustaz, qui sont les intellectuels musulmans, il y a les reconvertis, etc. Donc partout en Afrique subsaharienne, l'arène de l'islam s'est vraiment grandement diversifiée et continue de se pluraliser. Il y a des mouvements qui émergent et qui ont une durée de vie très limitée, hein, qui déclinent rapidement, d'autres qui prospèrent, qui s'élargissent, il y en a qui fusionnent, il y en a qui déclinent. En tout cas, avoir une vision actualisée et précise de cette scène islamique foisonnante est même devenue un peu compliquée, hein, même pour nous autres qui sommes des spécialistes de ces terrains-là.
Marie Mirand-Guillon, qu'en est-il justement donc du wahhabisme? D'aucuns disent qu'il y a un reflux, un début de déwahhabisation, d'autres disent non, ça prend toujours, et peut-être même que ça continue de plus belle. Dans cette pluralisation ou cette région où cet islam perclut justement de diversité, qu'en est-il du salafisme et du wahhabisme?
Pour dire les choses à grands traits, il n'y a pas qu'un seul salafisme ou wahhabisme, il y a aussi une diversité de communautés et ces mouvements également évoluent. Les tout premiers mouvements qui ont été qualifiés de salafistes par les historiens de l'Afrique de l'Ouest remontent aux années 1950, donc c'est pas récent, hein, c'est en lien avec les étudiants ouest-africains qui étaient partis étudier à l'université à Lazare au Caire ou qui revenaient du pèlerinage à la Mecque. Un deuxième moment a été le retour des étudiants musulmans qui cette fois étaient plutôt partis en Arabie Saoudite, hein, dans les nouvelles universités créées à cet effet, et soutenus par la manne pétrolière. Donc là, il y a eu vraiment un boom d'associations qui se voulaient plus clairement d'inspiration d'Arabie Saoudite, des pays du Golfe de Guinée, des pays du Golfe arabo-persique. Mais même ces mouvements ont évolué dans la mesure où pour certains, ils ont développé un enracinement local, avec des singularités propres, notamment par exemple au Niger, le mouvement Yanizala qui avait été porté par Aboubakar Goumi, par exemple, dont la trajectoire est assez spécifique.
Et les Ahl-Sunna, un mot qui veut dire, ou une expression, les gens de la Sunna, donc les porteurs, les partisans de la tradition prophétique finalement.
Alors il y a une très forte concurrence intra-musulmane, y compris en termes dénominationnels. Comment on s'appelle? Alors les mouvements dits wahhabites récusent en fait l'appellation wahhabite et préfèrent s'auto-appeler ou qu'on les appelle sunnites, en disant qu'ils relèvent de la Ahl-Sunna. Sauf qu'en Afrique de l'Ouest, la plupart des musulmans, si ce n'est tous, sont en fait des sunnites. Il y a assez peu de chiites de type duodécimain. Hein. Donc, ils s'approprient une dénomination qui devrait être partagée par tous.
Oui. Enfin, quand vous avez évoqué les chiites du haut des Simins, j'ai pensé peut-être à une plantation de quelques Libanais chiites ou d'autres. En réalité, il y en a très peu.
Il y a un petit noyau qui se dit donc chiite du haut des Simins au nord Nigeria autour du Cheikh Zakzaki, mais il était lui-même en fait au départ plutôt d'une tendance donc dite sunnite, avant de se reconvertir après la révolution iranienne à une idéologie de cette obédience. Donc ça mérite vraiment plus d'études, comme les statistiques démographiques, en particulier religieuses, sont pas toujours très fiables. Ce sont des choses qu'on peut pas très bien quantifier, mais en tout cas c'est vrai que c'est quand même tout à fait marginal hein, au plan de la démographie de la majorité de la population musulmane d'Afrique de l'Ouest.
Et comment, Marie Mianguillon, ces différents groupes et leurs leaders ont vu le djihadisme, ils ont été débordés, et peut-être une sous-question, et leur réaction était aussi de renforcer ou de consolider les liens avec la partie chrétienne dans le dialogue interreligieux.
Oui, parce que avec ce déploiement, mais vraiment formidable, des associations religieuses, en 2012, au Mali, il y en avait 146, et encore, c'est seulement celles qui sont officiellement déclarées. Donc, paradoxalement, ça a créé une sorte d'effritement du consensus islamique. Les voix musulmanes, celles qui s'érigent dans l'espace public pour parler au nom de l'islam et des musulmans, sont plurielles. Il y a parfois des points communs, mais il y a parfois des divergences, certaines polyphonies, peut-être parfois même certaines cacophonies. Et donc, les fidèles musulmans ne savent pas toujours à quel saint se vouer, si on peut me permettre cette expression. Il y a eu, du fait de cette histoire particulière, avec ce foisonnement associatif porté par la jeunesse musulmane, un effritement très notable de l'autorité islamique légitime et de ce relatif monopole. Il n'avait jamais été parfait et entier, mais il y avait un relatif monopole dans les temps plus anciens, de guides religieux. Aujourd'hui, il n'y a pas de personnalité sur la scène religieuse ouest-africaine qui ait suffisamment de charisme et d'audience pour parler et être entendu et avoir un effet performatif sur ce qu'ils considèrent relever du bon comportement en islam, de ce qu'il faut commander comme relevant du bien ou de ce qu'il faut condamner comme relevant du mal. Ce qui laisse le champ à libre interprétation. Et pour le public des musulmans, qui ont donc un choix de discours d'une certaine manière, écouter telle radio islamique ou telle autre, tel prédicateur ou tel autre, aller lire tel journal ou suivre tel groupe WhatsApp ou à... Les discours sont pas forcément les mêmes et ça ébranle un petit peu la confiance en ce qui relève de manière catégorique de l'islam de ce juste milieu, de l'islam du bien commun des musulmans. Et cela a mis donc ces sociétés dans une certaine fragilité quand les groupes djihadistes qui sont marginaux ont fait irruption sur la scène sahélienne. Depuis un certain temps, mais avec d'une manière accélérée depuis l'avènement de Boko Haram au nord du Nigeria et puis après 2012, la déconfiture de la Libye avec l'irruption des mouvements djihadistes au nord du Mali.
Et comment ces responsables religieux font-ils pour que les fidèles citoyens assument leurs responsabilités religieuses et civiques? Par un discours moralisateur, par un discours mobilisateur sur le plan politique, enfin d'investissement dans la cité, où ils se laissent déborder par ces groupes djihadistes parce qu'ils sont eux-mêmes fragilisés à cause de cette désunion.
Alors, dans les villes, pour reparler de nouveau de ces jeunes qui fréquentent des associations ou pas d'ailleurs, les moyens d'accroche à l'islam relève aussi presque d'un, je dirais pas, presque d'un marketing commercial. Voilà, il y a de nouveaux produits qui sont mis à la disposition de ce public de musulmans, qui est presque une sorte de clientèle, comme notamment des chants islamiques.
Des gospels
islamiques, voilà, ou parfois avec des tonalités très modernes, hein, presque un peu pop. Il y a certaines communautés qui excellent dans la production de chantres, notamment le mouvement Nasfat en pays Yoruba, dans le sud ouest du Nigeria, le mouvement de Cheikh Soufi Bilal à Bamako, au Mali. Et donc, les jeunes sont aussi aspirés dans ces mouvements-là
par la musique, par une
stratégie aussi pour répondre à ce que sont leurs besoins propres en tant que jeunes, en tant que citadins, voilà, confrontés à des questions, la place de la femme, la polygamie, voilà, quel travail, comment on fait quand on n'a pas de travail. Et donc, c'est par ces biais-là que ces associations continuent toujours aujourd'hui à recréer des espaces communautaires à distance de la famille, donc où ils peuvent s'émanciper et avoir une sociabilité qui leur permet aussi de nouer des mariages avec une certaine autonomie, parfois avec l'accord des parents, parfois non. Et où, voilà, pour se réapproprier un peu leur capacité d'initiative et continuer de donner sens aux configurations sans cesse changeantes du temps présent dans les lieux où ils résident.
Alors, pour la polygamie, en réalité, la tétragynie, parce que c'est le mari qui aurait droit à 4 épouses et non pas une polygamie ouverte, pour l'homme et la femme, c'est que le discours religieux, c'est pour y mettre fin, parce qu'il n'y a aucune raison de coller un texte qui a été compris dans une interprétation plutôt machiste, ou simplement pour revenir à une présentation traditionnelle et classique. J'ai lu dans une de vos productions qu'on a rendu l'excision interdite par décision religieuse, c'est presque par ordre religieux.
C'est une décision politique qui a été soutenue par certains imams. Alors, ces prédicateurs de cet islam de la jeunesse, ils essayent d'avoir un discours qui ne s'oppose pas frontalement aux jeunes. Donc, ce n'est pas un discours « c'est bien, c'est mal », mais plutôt une stratégie de pédagogie plus en douceur. Et qui vise notamment, sur la question de la polygamie, à l'émancipation des femmes. L'émancipation des femmes, et à partir du moment où on crée, où on favorise la constitution de couples, par exemple de AEMCistes, de militants et militantes de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, il y a des couples qui se sont formés au sein des associations. Et bien, dans ces couples-là, la femme a une part active dans la conduite des affaires du ménage. Et donc le choix plutôt tendant vers une monogamie se fait d'une manière souple, si l'on peut dire. Et de toute façon, le plus grand vecteur en faveur de la monogamie, c'est des facteurs socio-économiques. En fait, plus les personnes aptes à se marier ont une éducation, une bonne assise éducative et un certain statut économique, moins ils tendent à faire d'enfants, plus ils ont le souci de les accompagner. Donc en général, ils se limitent à un mariage. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'en Côte d'Ivoire en particulier, il n'y ait pas énormément de divorces, donc des mariages successifs. Voilà. Mais ceci dit, la polygamie, bien que non reconnue par la loi publique, il n'y a qu'un mariage civil possible, elle est tolérée dans les faits et elle n'est pas le fait seulement des musulmans. D'abord, dans les campagnes, les Africains qui se revendiquent de religions dites africaines traditionnelles peuvent continuer de pratiquer la polygamie, mais ça se voit aussi chez les chrétiens, même si c'est pas tout à fait toléré, et parfois aussi même chez les hommes politiques, y compris les hommes politiques chrétiens, et parfois même les hommes politiques chrétiens qui se revendiquent pentecôtistes, qui sont les plus hostiles, en fait, à la pratique de l'adultère, et voilà, ils sont des fermes défenseurs de la famille mononucléaire.
Alors, pour cette dernière partie, si vous voulez bien, Marie Mirand-Guillon, parlons des rencontres islamo-chrétiennes et la volonté des dirigeants religieux d'avoir une forme de concorde, de compréhension, pour que l'élément religieux contribue à apaiser la vie et les tensions dans cette région du monde.
Alors, le dialogue ou la rencontre interreligieuse islamo-chrétienne se retrouve partout dans les pays du Golfe de Guinée où la démographie religieuse est plurielle. Il y a à la fois des musulmans, donc de toutes ces tendances islamiques dont on vient de parler, mais il y a aussi donc des chrétiens, catholiques, protestants historiques, pentecôtistes, des fidèles des prophétismes dits africains, etc. Donc la rencontre interreligieuse est ancienne. En Côte d'Ivoire, pour ce que j'ai pu observer lors de mes terrains, elle est au départ une initiative en fait de l'Église catholique après le Concile de Vatican II, donc au début des années 60. Et ça se limitait au départ à des tout petits cercles d'élite, donc ces jeunes musulmans dont on a parlé, y compris les Trois Mousquetaires, avec quelques prélats catholiques qui essayaient de déminer le terrain des préjugés réciproques et de trouver le moyen d'un modus operandi pour parler de front commun. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand il y a eu accélération en Côte d'Ivoire de la déconfiture politique après la mort d'Oufoué Boigny et l'irruption de violences à la fois politiques et militaires et même un petit peu religieuses, comme il y avait aussi une certaine dispersion des voix qui parlent au nom de l'islam, pour faire encore plus bloc et avoir davantage d'emprise sur la population, les leaders chrétiens et musulmans se sont rapprochés pour essayer de porter la voix des guides religieux au sens large, hein, des guides religieux monothéistes, sur la scène publique. Et j'ai souvenance, par exemple, dans les années 90, au moment de l'ivoirité, d'allocutions conjointes de Monseigneur Bernard Yango, donc de l'Église catholique, et de l'imam Tidjanba, dont on avait parlé tout à l'heure. Et leur prise de parole avait fait fort impression et avait, de fait, vraiment permis une décélération des tensions religieuses à ce moment-là.
Merci infiniment, merci beaucoup, chère Marie Mirand-Guillon. C'était l'émission Questions d'Islam et nous avons reçu aujourd'hui Marie Mirand-Guillon, maîtresse de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, historienne et anthropologue, membre de l'Institut des mondes africains, et nous avons parlé donc de l'islam en Afrique de l'Ouest. Chers amis auditeurs, vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Guillaume Ledu. Et la réalisation par Laurent Paul Ray.